Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construiresaretraite.com.
Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré à l'investissement immobilier. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Alors depuis 2 ans, nous en avons beaucoup entendu parler, que ce soit à cause de scandales liés aux conditions d'hébergement ou au nombre de morts liés tout simplement au coronavirus. Nous voulons parler, vous l'aurez compris, des EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Alors oui, c'est vrai, les EHPAD n'ont pas nécessairement bonne réputation et pourtant elles sont bien utiles lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Et ces EHPAD, bien entendu, il faut les construire, il faut les exploiter, les maintenir et même parfois les rénover. Et cela tombe très bien car nous recevons aujourd'hui Laurent Cohen, spécialiste en investissement dans les EHPAD et directeur commercial de la société Le Guide du Patrimoine et conseiller en gestion de patrimoine.
Laurent Cohen, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en quelques mots, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un EHPAD et puis surtout sa différence avec une maison de retraite classique et surtout en quoi consiste un investissement en EHPAD?
Alors tout d'abord, laissez-moi vous dire que les EHPAD ont fait leur mue. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques progrès à faire, mais bon, comme dans tous les secteurs. Mais franchement, l'EHPAD aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'hier. Voilà, très clairement. Rappelons qu'il y a à ce jour un système de notation sur les EHPAD pour examiner les conditions d'hébergement et les qualités de service qui sont fournies dans ces établissements. Voilà. Je prends un exemple chez Corian. Vous avez un partenariat avec des grands noms de la gastronomie pour servir des repas d'ultra bonne qualité nutritive. On parlera d'ailleurs de caution Goemio. Ça, c'est à mon avis assez important. Alors, un EHPAD, c'est quoi ?
C'est une notion un peu de TripAdvisor de l'EHPAD, là.
C'est une notion de TripAdvisor de l'EHPAD, sauf qu'effectivement, c'est une société Capignon-sur-Rue qui va juger les EHPAD, en fait. Qui va dire, voilà, est-ce que les résidents sont bien ? Est-ce que l'infrastructure est bonne ? Est-ce qu'il y a des services, que la nourriture est bonne ou pas ? Donc, on est vraiment sur... un EHPAD, c'est quoi ? C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà. Et c'est résolument, si vous voulez, moderne et adapté pour des personnes qui sont effectivement dépendantes. Voilà ce que c'est qu'un EHPAD aujourd'hui.
Très bien. Alors, nous l'avons dit, l'actualité des EHPAD a été assez riche. Alors, aujourd'hui, est-ce que ce type de produit est réellement demandé ? Et si oui, pour quelles raisons ? Et d'autre part, quelle rentabilité on peut en attendre ?
Alors effectivement, il y a une vraie demande sur ce type de segment, ce type d'investissement, sur cette classe d'actifs, tant sur le marché primaire, donc le marché du neuf, que sur le marché secondaire, qui est celui de la revente. On peut même parler de tension, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes d'investissement qu'il y a de produits, donc de biens immobiliers, qu'on peut acquérir. La rentabilité s'établit entre 4 et 5% net de charges, quasiment net d'impôts aussi, puisque c'est le système du loueur meublé, selon la durée du bail qui reste à courir avant effectivement sa reconduction.
Et selon vous, quels sont les avantages d'un investissement en EHPAD par rapport à un investissement immobilier classique, nu, comme tout un chacun peut le faire ?
Très clairement et sans hésitation, c'est d'abord la garantie de paiement du loyer par le gestionnaire en EHPAD, puisque c'est lui qui vous garantit votre paiement de loyer. Donc ça, c'est quand même très important. C'est pas la personne âgée qui vous paye votre loyer. C'est le gestionnaire qui gère la résidence, qui vous dit, voilà, c'est moi ton locataire, c'est moi qui te paye, et vous l'autorisez à effectuer une sous-location à une personne âgée qui va être dépendante. Voilà. Ça, c'est l'un des premiers avantages. Le deuxième avantage, c'est l'absence de gestion. C'est-à-dire qu'on ne vous appellera pas pour changer une lunette de toilette, pour changer effectivement, pour faire des petits travaux, des gros travaux. On ne vous appellera pas sur de l'EHPAD. Vous pouvez partir en vacances tranquillement, on ne vous appellera pas. C'est une certitude. Il y a une fiscalité qui est excessivement avantageuse, qui est liée au loueur meublé. Voilà, c'est quand même pas neutre. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la solidité d'un gestionnaire. Un gestionnaire comme Corian, c'est... 3-4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hors PA, c'est 2 à 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même pas neutre. On est avec des locataires, puisque ce sont nos locataires qui ont quand même pignon sur rue et qui pèsent en milliards d'euros. C'est pour moi un avantage.
Alors là, on a vu effectivement les avantages. Alors malheureusement, un investissement sans inconvénients, ça n'existe pas. Donc on va parler un petit peu des inconvénients. Alors comme on vient de l'évoquer, effectivement, l'EHPAD, ça s'appuie sur une relation avec un gestionnaire, quelque part, avec un contrat qui nous lie avec ce gestionnaire. Or, on a vu par le passé des gestionnaires qui, malheureusement, ont fait faillite. Et on retrouve effectivement des investisseurs qui se retrouvent un peu dans la difficulté parce qu'ils ont un prêt immobilier à remboursé, puisqu'ils ont contracté ça auprès d'une banque, et en face, eh bien, le gestionnaire ayant fait faillite, ils n'ont plus de revenus locatifs. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se rencontre encore maintenant, et qu'est-ce qu'on peut adopter finalement comme attitude par rapport à cette situation un peu désastreuse ?
Alors, la faillite d'un gestionnaire, c'est quand même très rare, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, votre banque aussi, elle peut faire faillite. On est d'accord.
Oui.
Je ne suis pas certain, si vous voulez, qu'un gestionnaire puisse faire faillite comme ça. Enfin, aujourd'hui, si je me contente d'aller sur les 7 plus gros gestionnaires aujourd'hui en France, vous avez la liste, vous venez sur notre site avec un immense plaisir, vous tapez « meilleur gestionnaire », vous nous contactez, on vous les donnera. Les plus gros gestionnaires en France ne sont pas prêts de faire faillite, clairement. Alors, de manière hypothétique, techniquement, on peut toujours faire faillite, votre banque peut faire faillite. Un gestionnaire, un peu de doute quand même sur sa capacité effectivement à faire faillite, puisque c'est quand même de l'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qu'aujourd'hui, les personnes âgées dépendantes, il y en a. Il y en a beaucoup. Donc, vous avez une liste, effectivement, une shortlist des 7 plus gros gestionnaires. Il faut quand même regarder les choses en face. C'est-à-dire que quand vous investissez sur un petit gestionnaire qui peut éventuellement ou qui a pu effectivement faire défaut dans le passé, vous avez un spread, un différentiel de rentabilité qui est de 0,5%. Il ne faut pas être appâté par le gain là-dessus. Ça, c'est quand même, à mon avis, assez important. Je vous donne un exemple. Si un investisseur investit 150 000 euros à 4,5% de rendement, le spread sur un petit gestionnaire, c'est 750 euros par an. C'est-à-dire que son gain, c'est 750 euros par an. Enfin, pour ce prix-là, je laisse le petit gestionnaire et je vais voir un gros. J'ai plus de sécurité là-dessus.
Donc finalement, des astuces et des critères pour sélectionner les sociétés de gestion pérennes, c'est finalement s'adresser à un professionnel tel que vous pour de manière à ce qu'il puisse vous conseiller sur les sociétés de gestion qui ont pignon sur eux, qui ont une certaine antériorité, qui peuvent produire des garanties suffisantes.
Oui, bah alors je vais vous donner quelques clés pour effectivement vos auditeurs.
On reçoit tous souvent des mails qui nous invitent à investir dans ce type de biens et on ne sait pas nécessairement qui se cache derrière et si on ne va pas entrer dans un funnel de vente qui nous amènerait vers un gestionnaire qui soit effectivement pas totalement sécuritaire.
Alors, très simplement, d'abord, c'est un bon gestionnaire, vous prenez les 7 plus gros, vous êtes tranquille. Voilà, ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, c'est un bon état de bâti. Voilà, vous regardez l'état du bâti, c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'il y ait un bon niveau de loyer.
L'état du bâti neuf d'un certain nombre d'années?
Neuf, c'est compliqué parce que si c'est en VFA, vente en état fusion d'achèvement, pour voir une qualité de bâti, c'est compliqué. Mais quand vous êtes sur un produit à la revente, et on va y venir ensemble un peu plus tard dans l'émission, vous pouvez aller voir, c'est pas un problème. Personne ne vous l'interdit. Et puis même si vous n'allez pas voir, vous pouvez demander des diagnostics techniques et puis vous avez des images qui vous seront fournies, c'est pas un souci. Voilà, c'est... bonne qualité de bâti, un bon niveau de loyer. Alors, un bon niveau de loyer, ce n'est pas un niveau de loyer qui soit très intéressant pour vous et pas du tout pour l'internaute, pour l'exploitant, excusez-moi. C'est un niveau de loyer qui soit intéressant pour l'exploitant et pour vous. C'est un deal.
Un équilibre.
Il faut qu'il y ait un équilibre là-dessus. Il faut effectivement qu'il y ait un bon bail commercial. Voilà. Et puis, effectivement, il faut qu'il y ait un nombre de lits suffisant à exploiter pour le gestionnaire. C'est-à-dire que le taux de remplissage. C'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait toutes ces clés-là, il faut qu'il y ait un certain nombre de lits suffisants pour que l'exploitant les exploite et qu'il fasse de l'argent là-dessus, qu'il soit heureux dans cette résidence.
Qu'il puisse amortir les coûts fixes peut-être de la résidence.
Oui, oui, tout à fait.
C'est un point important justement parce que effectivement, on l'a abordé tout à l'heure, la population âgée augmente. Il y a de plus en plus de personnes qui malheureusement sont dépendantes et on constate quand même que les taux de remplissage justement ne sont pas forcément toujours très élevés et ça peut amener certains investisseurs à se retrouver un petit peu entre guillemets devant le fait accompli, c'est-à-dire que comme on vient de l'évoquer, le gestionnaire va dire « Ok, là, je ne m'y retrouve pas, donc on va faire un avenant au contrat et on va éventuellement baisser le loyer pour que, justement, ça soit toujours acceptable pour lui, mais ça le devient peut-être un peu moins pour l'investisseur. »
Alors, la notion de taux de remplissage en France, que ce soit des EHPAD publics, associatifs à but non lucratif ou privés, nord, sud, est, ouest ou centre de la France, c'est 97,4%. Donc, plein, c'est plein. Voilà, j'ai pas de souci de taux de remplissage. Je vais même aller plus loin, il manque des lits. En France, vous avez parfois dans certains EHPAD, enfin c'est pas parfois, vous avez dans certains EHPAD, dans beaucoup d'EHPAD, des listes d'attente. Donc la notion du taux de remplissage, pour moi, c'est pas le cas. Voilà. On peut rassurer effectivement les auditeurs, c'est un investissement qui est serein, pérenne, avec un écosystème qui, à mon avis, a un avenir certain devant lui.
Alors parlons également maintenant du niveau des charges qui peut aussi faire partie des mauvaises surprises pour l'investisseur, des charges qui peuvent être à la hausse du fait de l'évolution des normes médicales ou réglementaires. Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? Comment est-ce que vous abordez le sujet?
C'est excessivement simple. Oui, effectivement, il peut y avoir des charges. Oui, effectivement.
Des évolutions de charges.
Hein. Il peut y avoir des charges, il peut y avoir des évolutions de charges. Voilà, très clairement. Maintenant, on se rappelle, effectivement, on va se raccrocher à la lecture du bail commercial. Ben, un bail commercial en EHPAD aujourd'hui, dans 99,9% des cas, ça prend en charge tous les travaux. Petits travaux, gros travaux, travaux de remise aux normes, travaux de remise en conformité. Donc, on va les regarder dans le bail commercial. Alors, pour ceux effectivement qui auraient des questions sur la notion des gros travaux et l'application des dernières normes ou derniers décrets là-dessus, je les invite effectivement à nous contacter directement sur le site Le Guide du Patrimoine.
Alors, on a un tout petit peu abordé le sujet tout à l'heure, on va y revenir. Pour certains investisseurs, dans certains cas, ils peuvent être amenés à revendre l'investissement donc, qu'ils ont fait en EHPAD. Donc la question, c'est est-ce que effectivement c'est quelque chose qui est relativement facile? Est-ce que c'est relativement liquide? Et puis, d'autre part, est-ce qu'il y a un marché secondaire? Et est-ce que c'est intéressant pour d'autres investisseurs de se projeter et d'investir sur ce marché secondaire?
Est-ce que c'est liquide? Je vais vous répondre tout de suite. Il faut entre une semaine et trois mois pour revendre une chambre EHPAD. C'est quand même ultra liquide, à mon sens. Est-ce qu'il y a un intérêt à investir sur le marché secondaire? Donc, on va regarder. Bah, d'abord, c'est une livraison qui est immédiate. Voilà, puisque c'est déjà en exploitation. La deuxième des choses, c'est que vous avez une rentabilité qui est plus élevée, entre 4,5% voire parfois 5%. D'accord. Et puis, vous avez une visibilité sur le produit. Vous pouvez aller le visiter, le toucher, et puis vous pouvez demander les comptes.
Et on ça, a l'antériorité.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est à mon avis très intéressant. Vous avez ce qu'on appelle un track record. Vous êtes capable de dire, je sais dans quoi je vais investir.
Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Michel de Boulogne. On nous parle beaucoup de l'augmentation de la population âgée qui va devoir se loger. Alors certes, cette population augmente, c'est indéniable. En revanche, le coût d'un logement en EHPAD n'est pas neutre et toutes ces personnes âgées ne pourront pas forcément se payer ce type de logement avec les prestations associées. Il y a donc un niveau maximum de création d'établissements de type EHPAD au-dessus duquel nous ne trouverons plus de locataires. Comment savoir si on est proche de cette limite? Une bonne question de Michel, ça, non?
Mais vous avez raison, c'est une excellente question. Alors, on va répondre à Michel de Boulogne. Il a raison de poser cette question. Maintenant, je pense qu'il confond le troisième âge et le quatrième âge. Troisième âge, c'est plutôt de la résidence service senior. D'accord. Là, il n'y a pas de numerus clausus, c'est-à-dire qu'on peut en avoir cinq dans la même rue, ça ne dérangera absolument personne. Et effectivement, on pourrait se poser la question de savoir si le réservoir de résidents serait en adéquation avec l'augmentation de l'offre constante sur l'hébergement de personnes âgées non dépendantes, donc des seniors. Concernant les EHPAD, c'est un petit peu différent. Vous avez ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire que si tous les trois on devait s'associer, effectivement, à la fin de cette émission, et on devait construire un EHPAD, on ne pourrait pas le faire, il faut une autorisation administrative. Aujourd'hui, il n'y en a plus qui soit délivré. Donc on a un fait qui est important, c'est qu'on a une notion de numerus clausus. Après, il y a eu du réservoir de résidents. On a plus de demandes, il y a plus de personnes âgées, il y a une augmentation du nombre de personnes âgées, notamment du quatrième âge, qui vivent de plus en plus longtemps, et qui sont de plus en plus nombreux, et tant mieux, parce qu'on en fera partie tous les trois, par rapport effectivement à une offre d'hébergement qui est somme toute assez restreinte, à mon sens, aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est important.
Je complète juste la question de Michel. Est-ce que l'État apporte des subventions ou des aides, justement, pour les familles qui ont un parent qui doivent aller en EHPAD?
Alors, d'abord, la première des choses, c'est que les parents qui vont en EHPAD ont trois choix. Public, associatif à but non lucratif et privé. Nous, on va s'occuper du privé. C'est-à-dire qu'on va acheter et revendre des chambres dans le privé. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'effectivement, il y a des aides? Oui, il peut y avoir des aides pour certaines personnes. Voilà, très clairement. Dans le cas du privé, je ne suis pas certain qu'ils aient absolument besoin d'aide. Je rappelle juste un chiffre. La durée moyenne de résidence d'une personne âgée dépendante dans un EHPAD, c'est 2 ans et demi, pas plus.
Bien, Laurent Cohen, merci pour toutes ces réponses. Rappelons à nos auditeurs donc, que vous êtes spécialiste dans l'investissement en EHPAD et que vous êtes également directeur commercial.
On a bien compris.
Oui, directeur commercial donc, de la société Le Guide du Patrimoine. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités.
Merci Laurent Cohen.
Merci à vous.
Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.